d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique, ici à Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Nouveau massacre en République démocratique du Congo. Au moins 10 personnes ont été tuées hier soir dans l'Est, près de la frontière ougandaise. Les Nations Unies réclament aux autorités camerounaises une enquête indépendante après la mort de 23 personnes, dont 15 enfants, dans une région anglophone. Épidémie de coronavirus, le bilan monte à 1900 morts, mais l'OMS veut rassurer, le taux de mortalité n'est que de 2%. Suite des primaires démocrates aux États-Unis, le milliardaire Michael Bloomberg va participer à son premier débat télévisé. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au moins 10 personnes ont été tuées hier soir dans l'est de la République démocratique du Congo, près de l'Ouganda, ce qui porte à près de 400 personnes tuées dans cette région de Beni en moins de 4 mois. Nathalie Barge.
Des centaines de civils ont fui les lieux de cette nouvelle tuerie attribuée aux rebelles ADF. Le massacre a eu lieu hier soir au sud-est de Beni. La présidente de l'Assemblée nationale, Jeanine Mabunda, a effectué une visite ce matin dans la région. 8 civils, un agent des renseignements et un soldat ont été tués et 10 maisons ont été incendiées dans l'attaque du village de Manzalo. Malgré la prise du quartier général des ADF et la mort de 5 chefs de ce groupe armé, les massacres se poursuivent à un rythme effréné dans le territoire de Beni, observent les enquêteurs du baromètre sécuritaire du Kivu. Certaines sources estiment que près de 300 soldats congolais seraient morts depuis le début de l'offensive contre les ADF en novembre.
En Centrafrique, 12 combattants d'un groupe armé qui tentait de pénétrer à Birao sont morts dans des combats dimanche avec les casques bleus. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouvernement de Bangui. Nous faisons le point avec Ekiabadou.
Suite à l'entrée des combattants lourdement armés du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique dans la ville de Birao, les casques bleus de la MINUSCA, accompagnés des forces armées centrafricaines, ont repoussé ces éléments, selon un communiqué de la MINUSCA. Le bilan fait état de 12 morts côté FPRC, a précisé le porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazagi, qui ajoute que ce groupe avait fait dimanche une incursion par 3 axes dans la localité de Birao. Cette ville dans le nord-est du pays est tenue par le mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice ou MLCJ, une milice rivale. Jeudi déjà, la MINUSCA a dû faire appel à des avions de combat français pour dissuader une première offensive du FPRC, selon Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA. Birao est le théâtre d'affrontements réguliers entre le FPRC et le MLCJ, deux mouvements signataires de l'accord de paix entre 14 groupes armés et le gouvernement. Cet accord est censé mettre fin à une guerre civile meurtrière qui a commencé en 2013.
L'ONU réclame une enquête indépendante, impartiale et complète au Cameroun après la mort de 23 personnes, dont des enfants, lors d'une opération militaire dans la partie anglophone. Plus de détails avec Abdourahmane Dia.
Nous pressons les autorités de s'assurer que l'enquête sera indépendante, impartiale et complète et que les responsables rendent des comptes, a déclaré le Haut Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme. Le communiqué, qui se base sur des informations d'employés de l'ONU sur le terrain, indique que sur les 23 personnes tuées, on compte 15 enfants, dont 9 de moins de 5 ans. Un précédent bilan fourni dimanche par un représentant de l'ONU au Cameroun faisait état de 22 civils tués, dont 14 enfants, une femme enceinte et 2 femmes portant des bébés. Une femme enceinte est morte plus tard de ses blessures, selon le communiqué. Des témoins ont déclaré qu'une quarantaine d'hommes armés, comprenant des membres des forces de sécurité, ont attaqué le village dans le nord-ouest du pays en ouvrant le feu et en incendiant des maisons. L'armée, de son côté, a assuré que le drame était le résultat d'un malheureux accident après des échanges de tirs entre forces de sécurité et rebelles sécessionnistes.
Par ailleurs, la France, alliée traditionnelle du Cameroun, a condamné aujourd'hui ces violences et a demandé que les responsables répondent de leurs actes. tournée africaine de Mike Pompeo. Le secrétaire d'État américain a estimé à Addis Abeba qu'un accord permettant de résoudre le différend qui oppose l'Égypte et l'Éthiopie au sujet du grand barrage sur le Nil pourrait prendre des mois. Il reste beaucoup de travail à faire, mais je suis confiant que dans les mois à venir, nous pourrons résoudre ce désaccord, a déclaré M. Pompeo. Les dernières négociations, la semaine dernière à Washington, se sont achevées sans qu'un accord global soit conclu. Ce projet est depuis 2011 l'objet de vives tensions entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, mais les négociations se sont accélérées ces derniers mois. En Libye, le port Al-Shaab, un port secondaire de la capitale Tripoli, a été la cible aujourd'hui de tirs de roquettes. Le port a été bouclé par les forces de sécurité et aucune indication n'a pu être obtenue sur d'éventuelles victimes. Cette attaque, qui n'a pas été revendiquée, a eu lieu malgré l'entrée en vigueur en janvier d'un cessez-le-feu peu respecté par les belligérants libyens.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le milliardaire américain Michael Bloomberg, candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre, participe demain à son premier débat télévisé de la campagne. Les attaques de ses rivaux, le favori Bernie Sanders en tête, devraient fuser contre l'ancien maire de New York lors de leur première confrontation télévisée. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition. Le bilan de l'épidémie à coronavirus a atteint près de 1900 morts, mais l'OMS a mis en garde contre toute mesure disproportionnée dans la lutte contre l'épidémie. Plus de détails avec Yacouba Ouedraogo.
Les mesures doivent être proportionnées à la situation prise sur la base de preuves et d'éléments de santé publique, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Citant une étude du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, l'OMS a souligné que plus de 80% des patients souffrent d'une forme bénigne de la maladie. Le nombre de nouvelles contaminations en 24 heures est au plus bas depuis le début du mois, 79 nouveaux cas. Le président Xi Jinping a salué son homologue Emmanuel Macron pour le soutien de la France qui a fourni du matériel médical. Le principal foyer de contamination hors de Chine reste le paquebot de croisière Diamond Princess, placé en quarantaine début février près de Tokyo avec plus de 3700 passagers à bord. L'OMS dit être contre la restriction des voyages alors que les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont interdit l'entrée sur leur territoire aux étrangers s'étant récemment rendus en Chine. Pékin a annoncé une exemption de droits de douane sur certains produits médicaux américains, dont les équipements utilisés pour la transfusion ou pour la mesure de la pression artérielle.
Et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé aujourd'hui qu'il s'associait au ministère américain de la Santé pour développer un vaccin. Sanofi utilisera sa technologie de recombinaison de l'ADN pour accélérer la mise au point d'un vaccin donc potentiel contre le Covid-19. C'est ce qu'a indiqué le groupe dans un communiqué. En Israël, le procès pour corruption de Benjamin Netanyahou débutera le 17 mars prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Justice. L'annonce intervient alors que le Premier ministre israélien mène sa campagne en vue des élections législatives du 2 mars, les troisièmes en moins d'un an, après des scrutins n'ayant pas réussi à le départager de son rival Benny Gantz. Benjamin Netanyahou a été inculpé à l'automne de corruption, malversation et abus de confiance dans trois affaires. Le président sortant, Ashraf Ghani, a été réélu à la tête de l'Afghanistan selon les résultats définitifs de la présidentielle du 28 septembre. Ces résultats sont déjà contestés par son principal adversaire, Abdullah Abdullah. En Iran, le procès de deux universitaires français détenus depuis juin s'ouvrira le 3 mars à Téhéran. Fariba Adelka, anthropologue renommée, et Roland Marchal, spécialiste de la Corne de l'Afrique, sont accusés de crimes contre la sécurité nationale de l'État. Paris ne cesse de réclamer leur libération, mais face à ces demandes, Téhéran dénonce régulièrement ce qu'il présente comme une ingérence dans ses affaires intérieures. Au Pakistan, un policier a été tué, deux autres blessés aujourd'hui dans l'explosion d'une mine artisanale visant une équipe de vaccinateurs anti-polio dans le nord-ouest du pays. Aucun groupe n'a revendiqué cet attentat, mais les talibans pakistanais et plusieurs autres groupes extrémistes ont visé des vaccinateurs dans le passé. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Nani Talani.
Le gouvernement malgache envisage de mobiliser plus de 17 milliards de dollars de ses propres ressources pour financer ses projets de développement dans les 4 prochaines années. Il cherchera aussi le même montant auprès des partenaires au développement et des investisseurs privés pour améliorer des industries électriques, minières et touristiques du pays. Les autorités sénégalaises ont conclu 5 accords de partenariat avec des entreprises américaines en marge de la visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo au Sénégal. Selon l'agence Ecofin, les contrats portent sur le développement, le financement et l'exécution de projets dans plusieurs secteurs dont l'énergie, la technologie, la santé, les infrastructures sociales et routières, l'éducation, le logement et les soins sanitaires. Pour terminer, la République démocratique du Congo doit revoir son budget 2020 à la baisse de près de moitié, a annoncé le ministère des Finances. La loi de finances 2020 prévoyait un budget de 10,59 milliards de dollars. Cependant, le plan de trésorerie qui tient compte de l'exécution du budget ne prévoit plus que 5,45 milliards de dollars de dépenses. Ce budget devait financer le chantier de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques lancé en septembre 2019. Son coût a été estimé à 2,6 milliards de dollars.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Le tirage au sort du CHAN 2020 a été effectué.
Oui, le tirage au sort fait à Yaoundé a livré de chaudes empoignades en perspective. Présentation des poules avec notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Gilentap.
Le Cameroun, pays hôte, hérite dans sa poule d'une équipe d'Afrique australe, le Zimbabwe, et de deux sélections d'Afrique de l'Ouest, le Mali et le Burkina Faso. Camerounais et Zimbabwéens vont donner le coup d'envoi de la compétition à Yaoundé le 4 avril. Il n'y a plus de petites équipes, même si le tirage au sort semble abordable pour le Cameroun, a commenté l'ancien international camerounais Salomon Olembe à l'issue du tirage au sort. Pour passer au second tour, le tenant du titre, le Maroc, va se battre dans le groupe C contre le Rwanda, le Togo et l'Ouganda. Le tirage au sort d'hier a aussi offert un duel fratricide dans le groupe B entre les deux Congos qui se retrouvent et auront comme adversaires le Niger et la Libye. La dernière poule, la poule D, s'annonce aussi élevée avec 3 pays au style de jeu quasi similaire, la Namibie, la Tanzanie et la Zambie. La Guinée se retrouve esselée au milieu des 3. Le CHAN 2020 va se disputer du 4 au 25 avril prochain sur les sites de Yaoundé, Douala, Japoma et Limbé. Le Cameroun aura là l'opportunité de faire un test de grande nature en prélude à la CAN 2021 que le pays devra abriter. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Début des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe.
Deux chocs de haut vol en ouverture entre d'une part Dortmund et le Paris Saint-Germain et d'autre part l'Atlético Madrid et Liverpool. Les Reds tenant du titre partent favoris face aux Espagnols. En confiance, les champions en titre anglais peuvent s'appuyer sur des résultats exemplaires sur le plan domestique. Une seule défaite lors de leurs 56 dernières rencontres en Premier League. De quoi impressionner l'Atlético en plein doute après un mois de janvier calamiteux sur le plan domestique. De son côté, le Paris Saint-Germain tentera de rompre la malédiction qui semble le poursuivre à ce stade de la compétition. 3 éliminations sur les 3 dernières années en 8e de finale.
Iker Casillas prend sa retraite sportive.
Oui, le gardien espagnol qui n'a plus rejoué depuis un infarctus en mai 2019 a choisi de prendre sa retraite sportive. L'ancien capitaine de l'équipe d'Espagne, 38 ans, a annoncé hier sur son compte Twitter qu'il est candidat à la présidence de la Fédération espagnole en 2020. Victime d'un infarctus lors d'un entraînement en mai 2019, Iker Casillas a rejoint le staff technique de son équipe pendant sa convalescence. L'ancien gardien du Real Madrid, vainqueur de 3 Ligues des Champions avec son club formateur, 2000-2002-2014, fait partie des rares joueurs à avoir disputé plus de 1000 matchs au cours de sa carrière. Après 25 années passées au Real, Casillas a rejoint le FC Porto en 2015. Il y a remporté le championnat du Portugal en 2018 et dépassé les 150 rencontres sous les couleurs des Dragons.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Togo, la campagne électorale pour la présidentielle du 22 février prend fin ce jeudi. Elle se déroule sans incident, mais les candidats se plaignent de n'avoir toujours pas touché l'enveloppe attendue de l'État togolais. Reportage à Lomé de notre correspondante Kaïl Osson.
Les candidats à cette élection présidentielle sont dans l'expectative des 42 millions de l'État togolais comme contribution pour le financement de la campagne électorale. Malheureusement, à 3 jours de la fin de cette campagne, les candidats lorgnent toujours du côté du trésor public sans gain de cause. Une situation jugée inadmissible par le CACIT. Chislen Nyakou, directeur exécutif de cette organisation de la société civile.
La campagne est pratiquement arrivée à son terme. Aucun parti politique n'a encore reçu le financement. Cela nous étonne d'autant plus qu'il y a récemment un décret qui est sorti, qui a reprécisé le montant qui doit être alloué. Donc pour nous, il faut que les partis politiques rentrent dans leurs droits.
Le retard accusé dans le décaissement de ces fonds paralyse les activités prévues par les candidats, aussi bien ceux de l'opposition que celui du pouvoir. Le ministre des Droits de l'Homme chargé des relations avec les institutions de la République, Christian Trimoin, par ailleurs représentant du candidat du parti au pouvoir, évoque des procédures administratives.
Le gouvernement travaille à cela. Je comprends un peu les procédures financières qui font que le décaissement devrait se faire, il me semble, dans les jours à venir très rapidement pour que nous puissions, en tant que candidats, disposer également des moyens nécessaires avant à cette compétition. Nous espérons, nous poussons que ça se fasse avant la fin de la campagne. Nous avons des dépenses à assurer avec cet argent-là et naturellement, nous demandons au gouvernement de faire le maximum pour que nous puissions également rentrer dans nos fonds pour soutenir notre candidat convenablement comme il se doit.
Dans l'opinion collective, le gouvernement togolais aurait sciemment bloquer les fonds pour empêcher les autres candidats de pouvoir se déployer comme cela se devait. Au même moment, le parti Unir aussi dit se plaindre de n'avoir pas reçu ce financement. Chislen Nyakou revient pour clarifier les motivations qui sous-tendent le financement de la campagne électorale par l'État.
Ceci aurait permis que chaque parti ait les moyens, un peu de moyens quand même, pour pouvoir faire la campagne et toucher les populations avec leur programme de société. Nous savons que tous les partis politiques n'ont pas forcément les mêmes moyens. C'est pourquoi le législateur a prévu une loi. Je pense que c'est l'esprit, la lettre de la loi. Et ceci pour permettre à chaque candidat d'avoir un minimum pour faire la campagne.
L'article 10 de la loi portant financement public des partis politiques et des campagnes électorales dispose que l'État contribue au financement des campagnes électorales des partis et regroupements de partis politiques, ainsi que des candidats ou listes de candidats dans le cadre des élections législatives et présidentielles. Dans le cadre de cette présidentielle, 500 millions de francs CFA ont été prévus, dont 60% devaient être répartis à égalité entre les 7 candidats et les 40% restants seront répartis proportionnellement aux suffrages obtenus entre les candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés. Taylorson, Lomé, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous dans À votre avis ce soir à 18h05 temps universel sur VOA Afrique. Les attaques djihadistes se multiplient au Mali, au Niger et au Burkina où 24 civils ont été tués ce week-end. Une église protestante a été visée. Ceci malgré les mesures annoncées par les autorités de ces pays et la communauté internationale. D'ailleurs, le président togolais Faure Gnassingbé, dont le pays est frontalier du Burkina Faso, dit que la menace est réelle pour le Togo, même si aucune attaque n'y est jusque-là enregistrée. Vous pouvez participer en laissant vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou en appelant au 001 202 205 26 33.
Au Cameroun, les autorités affirment avoir ouvert des enquêtes sur les incidents de vendredi dernier dans le village de Ngarbou, dans le nord-ouest du pays. Les Nations Unies parlent de plus d'une vingtaine de civils villageois tués et réclament une enquête indépendante et impartiale. L'armée parle d'accidents malheureux. Bagassi Koura a joint à Yaoundé le capitaine de frégate Cyril Atonfak Gemo, chef de division de la communication du ministère camerounais de la Défense.
Ce qui s'est passé le 14 février à Darbou, c'est que les forces de défense et de sécurité, en mission de restauration de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dans cette zone-là précisément, avaient eu le renseignement sûr et certain de ce qu'une des maisons d'habitation qui bien ciblé de la localité de Darbou, était devenu le nouveau centre opérationnel fortifié des terroristes sécessionnistes. Alors, le détachement militaire à l'approche de la maison a été violemment pris à partie par des guetteurs au cours des combats très violents. Un des réservoirs de carburant frelaté de contrebande abritait aussi la maison, mais on ne pouvait pas le savoir. Après, feu a été touché, ce qui a déclenché un incendie suivi d'une forte explosion et les flammes ont embrasé la maison, d'où des corps calcinés. Le détachement des forces de défense et sécurité a neutralisé cette terroriste. Le bilan de cette séquence est maintenu à 4 enfants décédés plus une femme, côté civil, et à 7 terroristes neutralisés. Et le ministère de la Défense, le ministre de la Guerre, le président chargé de la Défense, a ordonné que des investigations se poursuivent et qu'elles soient complétées par une enquête mixte de la gendarmerie nationale et de la division de la sécurité militaire.
Alors, les Nations Unies demandent que l'enquête soit faite, ce que vous avez dit qui est en train d'être fait. Est-ce que ces résultats seront rendus publics?
D'abord, le Cameroun n'a pas attendu que les Nations Unies demandent que les enquêtes soient faites. Le Cameroun, c'est un pays libre, c'est un État indépendant, c'est un État souverain. Et ces enquêtes sont des enquêtes procédurales. C'est toujours ce qui est fait en de pareilles circonstances. Nous sommes un pays engagé depuis quelques années sur 4 fronts. Sur la façade maritime, où nous combattons avec beaucoup de vigueur et de réussite la piraterie maritime, à la frontière est du pays où nous combattons le banditisme transfrontalier, à l'extrême nord du Cameroun, où nous combattons depuis plusieurs années la secte islamiste terroriste Boko Haram, et malheureusement aussi à l'intérieur dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que chaque fois qu'un problème s'est passé sur le front, des enquêtes ont été diligentées à l'échelle nationale dans le respect des procédures réglementaires, dans le respect des règles de la guerre, dans le respect du droit international humanitaire et dans le respect des règles d'engagement.
Dans le second communiqué, on parle de propagande. Est-ce que vous accusez aussi certains groupes d'avoir fait de la récupération?
Nous les accusons avec certitude. Nous avons des groupes de nationaux qui ont versé dans la collaboration avec l'étranger pour déstabiliser l'État camerounais. Ils sont connus, je ne les citerai pas. Nous avons des multinationales étrangères qui ont le regard fixé sur les ressources halieutiques, minérales et minières du Cameroun. Nous avons un certain nombre d'intérêts étrangers qui voudraient, n'est-ce pas, disloquer le Cameroun pour mieux exploiter ses richesses.
Le capitaine de frégate Cyril Atonfa-Guémo, chef de division de la communication du ministère de la Défense du Cameroun.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la tournée de Mike Pompeo dans 3 pays d'Afrique subsaharienne, sa première depuis sa prise de fonction il y a 2 ans. Le secrétaire d'État américain s'est rendu au Sénégal, en Angola et en Éthiopie. Au menu de sa visite, la coopération, l'investissement américain sur le continent, la lutte contre la corruption et la sécurité. Ceci alors que Washington étudie la question de sa présence militaire sur le continent. Nous allons discuter des relations États-Unis-Afrique dans les domaines économiques, diplomatiques et militaires avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Le Kenya a lancé une opération en 2015 pour déloger les combattants du groupe Al-Shabaab de la forêt de Boni, dans le nord-est du pays. Cette opération se poursuit à la grande frayeur des habitants de la région. Le reportage de Mohamed Youssouf à Kangwe, le récit est de Lionel Gaïma.
Bilal Abdi pensait être en sécurité ce jour-là, en 2017, lorsqu'il voyageait à bord d'une voiture de police avec 6 autres civils pour aider à raccourcir leur trajet. Des combattants Al-Shabaab leur ont tendu une embuscade dans le nord-est du Kenya. Ils ont fait exploser une bombe sur la route, puis ont criblé la voiture de balles. Bilal Abdi, une victime.
Ma jambe saignait. Un homme m'a visé. J'ai essayé d'esquiver. La balle m'a touché au cou. L'homme est descendu et passé tout près de moi, vérifier si j'étais morte sans même me regarder.
3 policiers ont pris la fuite. Le conducteur et 5 civils ont été tués, dont un enfant. Bilal Abdi, elle, a survécu, mais il a fallu attendre presque 3 ans pour que les chirurgiens puissent retirer les balles des éclats de but logés dans son cou et sa jambe gauche.
Mon père m'a dit de rentrer à la maison, mais je lui ai répondu que la route n'était pas sûre. Avant, je cultivais la terre pour aider ma famille, mais maintenant, je suis devenue handicapée.
Depuis, les autorités kényanes ont interdit aux civils de voyager en compagnie des forces de sécurité qui mènent une guerre prolongée contre les djihadistes. Irungu Macharia, commissaire du comté de Lamu dans le nord-est du Kenya.
Le groupe terroriste vise principalement nos véhicules et nos agents de sécurité. En ayant des civils dans ces véhicules, ils deviennent eux aussi des cibles.
C'est en 2015 que le Kenya a lancé une vaste opération pour débusquer les combattants d'Al-Shabaab dans la forêt de Boni, à la frontière avec la Somalie. Elle ne devait durer que quelques mois, mais près de 5 ans plus tard, les villageois ont toujours peur d'aller dans la forêt. Abala Waro habite près de la forêt de Boni.
Si vous êtes vu dans la forêt, vous pouvez être tué. Vous ne connaissez pas ces gens-là. Ce sont des animaux qui vivent dans la forêt. Vous êtes insignifiant pour eux. Il vaut mieux mourir de faim ici qu'aller dans la forêt.
Comme pour marquer leur présence dans la région, les djihadistes somaliens ont lancé en janvier une attaque osée contre une base militaire conjointe États-Unis-Kenya dans le comté de Lamu. 3 soldats américains ont été tués. Alors que les forces de sécurité continuent de battre pour sécuriser la forêt de Boni, les villageois, eux, se battent pour leur propre survie.
Présidentielle américaine de 2020, les candidats à l'investiture du Parti démocrate s'affronteront dans un autre débat demain mercredi à Las Vegas, dans le Nevada. Grâce à sa percée dans les sondages d'opinion, où il vient maintenant en deuxième position, l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, sera de la partie. Pour expliquer sa fulgurante montée, Timothée Donangmai a joint Brett Bruen à Alexandria, en Virginie. C'est le président de Global Situation Room.
Pour l'instant, il n'y a pas vraiment une satisfaction au niveau des démocrates avec leurs options. Nous avons vu l'ancienne vice-présidente Biden qui n'a pas reçu l'appui des gens en Iowa, en Nouvelle-Hampshire, qu'on s'attendait. Alors, ils sont en train de chercher, surtout les gens du centre, ils cherchent quelqu'un qui pourrait être une bonne option face au président Trump.
Quel avantage présente Bloomberg à cette course?
Bon, le premier avantage, c'est la quantité d'argent qu'il porte et qu'il dépense dans sa campagne. Mais il faut aussi prendre en compte que Bloomberg, il était maire de New York. Ce n'est pas une petite position. Il a assez d'expérience, non seulement dans le gouvernement, mais aussi dans ses activités non gouvernementales. Il a travaillé beaucoup dans le domaine politique contre les armes, contre les changements climatiques. Alors, il a assez d'expérience dans ce domaine. Il n'est pas comme les autres gens riches qui se présentent sans avoir occupé des positions, sans avoir vraiment participé dans des débats nationaux.
Comment Bloomberg se mesure-t-il au président Trump?
Ce que m'a vraiment frappé des communications, des publicités de Bloomberg, c'est qu'il est assez fort, assez direct avec sa façon d'attaquer au président Trump. Et c'est vraiment une différence qu'on constate avec lui parce qu'il est un New Yorker, il est quelqu'un qui sait bien comment les New Yorkers comme Trump communiquent et je crois que aussi la quantité d'argent qu'il a en comparaison avec une quantité, on pourrait dire, même si on...
Et voilà, merci à vous de votre fidélité à VOA Afrique. C'est la fin de cette édition. Je remercie Michel Joseph à la mise en onde et John Dryden à la console. Restez avec nous, tout de suite un nouveau point sur l'actualité présenté par Henri Francisque. Bonne soirée sur notre antenne.
VOA Afrique, les